Tout le monde a une histoire de famille. Ça peut être un secret bien gardé, ça peut être un alibi, ça peut être une mythologie. C'est souvent l'origine de tout. Vous avez remarqué tout ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on fait. C'est une histoire qui est souvent lourde à porter. N'a-t-on pas toutes et tous rêvé d'en changer un jour de famille, d'être né ailleurs, autrement, d'avoir eu une autre vie ou un autre début, tout simplement? On sait depuis Freud et son roman familial des névrosés que le fait de s'interroger sur ses origines fait partie de la construction de soi, au point qu'on se fantasme toujours à un moment donné enfant bâtard, enfant trouvé, au point qu'on s'imagine toujours d'autres parents plus valorisants. Il y a ces étapes en fait dans la formation de soi où on se raconte des histoires sur qui on est, d'où on vient. Et puis après, c'est une autre histoire, une histoire d'acceptation et de résilience avec des obstacles, avec des errances. Dans 3 jours chez ma mère, de François Weyerganz, dont on a appris la mort hier, je lis ces phrases. Comme toutes les familles, nous sommes une famille à risque. On ne sait jamais d'où peut sortir un dérapage. Si nous n'avions pas grandi ensemble, nous n'aurions sans doute aucun atome crochu. Tout simplement, nous ne nous serions pas rencontrés. Mais il y a cette enfance en commun qui nous colle à la peau, cette expérience vécue, ineffaçable plutôt qu'ineffable, qui n'a pas fini de nous faire du bien ou du mal, selon les moments.
Boomerang, Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Que représente la famille pour mon invité d'aujourd'hui? Elle qui s'illustre depuis une dizaine d'années dans de grandes comédies familiales, justement, sur grand et petit écran. Ses rôles dans la série Fais pas ci, fais pas ça, mais aussi dans Les petits mouchoirs de Guillaume Canet ou La ch'tite famille de Danny Boone en ont fait l'une des actrices préférées des Français. Elle sera à l'affiche dès demain de Venise n'est pas en Italie, avec Benoît Poulvorde notamment. L'histoire d'une famille pour qui rien n'est impossible. Bonjour Valérie Bonneton.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être là.
Merci de m'accueillir.
Ça vous est arrivé à vous de rêver d'être né dans une autre famille que la vôtre, tiens?
Oui, je dois dire que oui. Non, mais c'est, je peux pas dire que j'ai eu honte de ma famille, mais à l'adolescence, en tout cas, j'ai vécu ça. J'avais envie d'être différente.
Comment vous auriez aimé qu'elle soit, cette famille?
Je ne votais pas comme mes parents, j'étais à l'opposé, je n'avais pas les mêmes goûts, j'avais envie de devenir quelqu'un d'autre. Et puis, à l'âge de 16 ans, j'étais à l'internat, et le week-end, parfois, mes parents m'oubliaient, je dois le dire. Donc, je dormais dans la famille du garçon avec qui j'étais à ce moment-là, une famille merveilleuse. Et là, j'ai découvert une autre famille, une autre éducation. Une famille qui regardait des films, qui lisait beaucoup de livres. Et j'avais envie de ressembler à cette famille-là. Et comme ils aimaient leurs enfants, j'avais envie, surtout la maman, j'avais envie de lui ressembler. Je me disais, oh, mon Dieu, mais c'est merveilleux d'aimer ses enfants comme ça, de tout leur donner. J'admirais, je crois que j'ai pris énormément de cette famille. Et pourtant, ma culture, c'est mes parents, c'est ma mère beaucoup, c'est sa folie, c'est beaucoup de choses d'elle, c'est sa poésie, c'est une artiste. Mais j'ai pris beaucoup de cette famille-là. Voilà.
Parce que dans la vôtre de famille, Valérie Bonneton, vous étiez qui? Vous étiez la rebelle blouson de cuir, le clown de service?
Oui, il paraît que j'avais un bon petit caractère, que ma mère me disait que j'étais très indépendante, j'avais 2 ans, je voulais tout faire toute seule, je voulais réussir toute seule, faire les choses toutes seules. C'est ce qu'elle me dit. Moi, je sais pas, j'ai pas le souvenir. En tout cas, je disais ce que je pensais quand j'étais petite déjà.
Et vous faisiez rire?
J'étais pas d'accord.
Oui,
je faisais rire parce que, mais un peu malgré moi, c'est-à-dire que je disais ce que je pensais en cours, j'hésitais pas, j'avais aucune timidité. Bizarrement, je posais toutes les questions que j'avais envie de poser. Je dis, voilà. Donc, ça faisait rire. Je dis, pourquoi ça fait rire? Je comprends pas.
Est-ce que vous imaginiez à l'époque que faire rire pouvait être lié à une profession?
Pas du tout. Mais je sais que je mettais tout mon cœur dans les choses. Par exemple, je me souviens que j'ai récité un poème à l'âge de, je sais pas, sixième. Et j'ai mis tout mon cœur, toute ma passion. Et du coup, je faisais rire tout le monde. Parce que j'étais à fond, quoi. J'ai fait rire tout le monde. J'ai eu une note, mais lamentable. J'ai eu 2, je crois. Parce que le prof pensait que je le faisais exprès.
Et vous faisiez exprès?
Mais non, je le faisais
pas
exprès. Mais non! Non! je me suis dit, tiens, il y a quelque chose. Je sais pas, peut-être que j'étais très naïve. Je mettais toute ma passion, je mettais tout, voilà. Et ça, c'était peut-être décalé, ça donnait quelque chose de particulier, ça a fait rire.
Et comment vous avez découvert l'existence du théâtre alors?
C'est en 4e ou en 3e, je sais plus, on a joué les fourberies de Scapin et tout le monde devait travailler la même scène. Et j'ai pris un plaisir fou.
Ça a été
fait
un choc?
À raconter cette histoire dans l'espace. Je me souviens que je sais pas pourquoi, j'ai dit quelque chose puis j'ai sauté. J'ai fait un saut dans l'espace. Et ce truc-là, ça a donné quelque chose de drôle, et je me suis régalée. Vraiment, je me suis dit, mais oh, c'est fou de pouvoir s'exprimer de cette manière-là. Voilà, j'ai adoré. J'avais l'impression d'exister, déjà, en jouant.
Vous avez su tout de suite?
Ben, j'ai su tout de suite, ça m'a fait un effet, je me suis dit, mais bizarrement, je ne sais pas d'où ça vient. Quand j'étais toute petite, j'avais envie d'être actrice, mais je le gardais secrètement. Je faisais même des prières, je me disais, faites que je sois actrice un jour. Voilà, je croyais en Dieu.
Et quand est-ce que vous avez avoué à vos parents alors que ce que vous vouliez faire, c'était vraiment devenir actrice?
Je voulais être vétérinaire, j'ai fait première S, puis après je me suis dit non, j'ai fait du théâtre en première, je me suis dit c'est ça, voilà, je veux faire ça, finalement c'est ça que je veux faire, j'en suis sûre. Et mes parents, franchement, c'est pas qu'ils s'en fichaient, mais oui, bah vas-y, oui, ouais, bon, ouais, ouais.
Ils vous ont pas vraiment encouragé, pas plus
non,
que ça.
Non, ni l'un ni l'autre, quoi. Non, franchement, non. Mon père voulait que je sois institutrice. Et moi, c'était l'ennui mortel. Je me suis dit, mais quelle horreur, quelle horreur. Mais alors que j'ai beaucoup d'admiration aujourd'hui pour les professeurs, pour les enseignants, beaucoup, beaucoup d'admiration. Mais je n'aurais jamais pu faire ce métier.
Mais c'est peut-être parce qu'on se dit tout simplement que le métier de comédien ou d'acteur, c'est presque impossible, ça marche jamais, non?
Oh oui, mais je crois qu'ils pensaient pas. Et du coup, comme on n'avait pas peur pour moi, je crois, je n'avais rien à perdre. Donc, je crois que j'y suis allée à fond. Je me suis dit, j'avais quand même bien les pieds sur terre. Et je me disais, je me donne 3 ans. J'y vais à 200%. Si c'est pas pour moi, je vais bien me rendre compte. Hein. Je vais me rendre compte que c'est pas pour moi. J'arrêterai, je ferai autre chose. Mais quitte à avoir une vie, autant avoir une belle vie, une vie artistique. Et je voulais pas passer à côté. Je voulais me donner les moyens, voilà. Et mon rêve, c'était de passer le conservatoire. Donc, j'ai fait des cours Florent. Après, j'ai eu le concours. Et j'étais tellement heureuse, que ça voulait dire, bah oui, c'est possible. Voilà, faut qu'on continuer. Bah,
évidemment que c'est possible, puisque, voilà, comme le dit l'adage, l'impossible n'est pas Valérie Bonneton.
Exactement, l'impossible n'est pas Chamodo.
Exactement, bah oui, parce que ça c'est une phrase du film. C'est un des sujets de Venise n'est pas en Italie, dans lequel vous jouez le rôle d'une mère qui ne vit pas vraiment la vie qu'elle aurait rêvée, et qui pourrait tendre le champ des possibles de son fils, le teint en blond notamment, pour qu'il soit plus beau. Et ça c'est à la fois terrible et bouleversant.
Oui, alors ça c'est une partie de la vie d'Ivan Calbera, qui a écrit le film, qui a réalisé aussi L'étudiante et Monsieur Henri. Et en effet, donc ils étaient deux frères, et la mère trouvait qu'il y en avait un qui était plus beau que l'autre. Et elle lui teignait les cheveux en blond régulièrement, lui disant bon, soit on est beau naturellement, mais c'est rare. Soit faut optimiser son capital de départ. Donc elle lui teignait les cheveux en blond. Et il le vivait très mal, parce qu'en fait il rêvait que d'une chose, c'est que ça ne se voit pas, pourvu que les gens, voilà, pourvu qu'on le fasse pas remarquer. C'était la honte totale pour lui.
La beauté chez un individu, Valérie Bonneton, pour vous, ça tient à quoi?
La beauté, c'est quand même très très... Quand on aime quelqu'un, quand il y a l'amour, quand quelqu'un est généreux, quand il partage, on le trouve beau, je crois. Hein. Je crois vraiment.
Alors ce que vous trouvez
beau, forcément beau.
C'est une relation.
On trouve toujours
en fait
beau ses enfants, voilà.
Ouais.
On les trouve toujours très beaux. Moi, je les trouve particulièrement très très beaux.
Quelle place joue la beauté, le physique à votre avis?
Pardon?
Quelle place joue la beauté, le physique à votre avis, dans la réussite?
Pour une actrice, vous voulez dire?
Par exemple.
Par exemple, pour une actrice, quelle place joue... Moi, j'ai la chance quand même de pas avoir démarré sur mon physique. Quelle chance!
Oui, parce que...
Quelle chance!
L'histoire est quand
encore
même marrante. Effectivement, je sais que lorsque vous avez tenté d'intégrer la Comédie Française après le conservatoire, vous avez été recalé sous prétexte.
Ouais.
C'est comme ça que vous le racontez, que vous n'aviez pas un physique assez classique.
À cette époque-là, Jean-Pierre Mécal, qui dirigeait la Comédie Française, vraiment engageait les jeunes premières, les soubrettes, etc. C'était vraiment
et
les physiques comme ça.
Hein? Elle ressemble à quoi, la soubrette?
Je sais pas, je devais être trop particulière pour la soubrette, je sais pas. Je sais Catherine Yégel, parce que j'avais travaillé avec Roger Planchon, avec Jean-Louis Benoît, donc j'avais des petits rôles un peu comme, vous savez, quand on est auxiliaire au conservatoire. Et puis, pour que je sois engagée comme pensionnaire, donc après, Catherine Yégel m'a dit ça, j'étais contente, j'ai dit, ça démarre bien, hein. Elle m'a dit non. Voilà,
cette
physique pas assez classique.
Complètement dingue de physique
mais
classique.
Mais finalement, franchement, c'est une chance, parce que après, on peut tout jouer, on peut jouer beaucoup de choses, voilà, quand on a un physique qui est pas trop marqué, joli, très belle.
Vous voulez dire par là que ça a été aussi votre force de comédienne, ce physique?
Je pense que c'est plutôt une chance. D'être ordinaire, d'avoir l'air ordinaire, c'est plutôt une chance, hein. Moi, je le revendique, je suis très contente. Hein. Vive les gens ordinaires.
Vive les gens ordinaires, ça dépend quel ordinaire. Parce que celle qui n'a aucune force et aucun physique dans cette émission, celle qui ne m'inspire que le cri du chat et qui est vlaide, mais alors vlaide comme le péché, sans doute la connaissez-vous, c'est la culture et son actualité ingrate et parfois plus que limite. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mardi 28 mai?
Parfois je fais des exercices pour moi tout seul. J'essaie de définir le mot porte, oui, ou le mot jupe, ou le mot trottoir. C'est très difficile.
de Royal Weyerganz, l'écrivain, cinéaste et académicien François Weyerganz est mort hier. Il avait 77 ans, auteur facétieux qui maniait les mots avec humour et finesse, selon les termes du ministre de la Culture. Weyerganz avait gagné le prix Renaudot pour La démence du boxeur en 1992, puis le Goncourt en 2005 avec Trois jours chez ma mère. Il laisse une quinzaine d'ouvrages ainsi que 7 longs métrages, dont un film sur quelqu'un, présenté en 1972 à la Mostra de Venise. Il siégeait sous la coupole des Immortels depuis 8 ans, élu au siège d'Alain Robbe-Grillet. Paix. L'opéra sur un air d'Italie, dans le cadre du 350e anniversaire de l'Opéra de Paris, l'institution nationale s'associe cette fois avec la BNF pour proposer une grande expo sur l'histoire tumultueuse des liens entre la première scène lyrique française et sa cousine transalpine, entre le XVIIe siècle et la Révolution. Dans la bibliothèque musée de l'Opéra, l'événement réunit près de 130 objets, gravures, dessins, costumes d'époque pour raconter querelles, controverses, dialogues entre les deux modèles musicaux. Et ça, c'est pas du pipeau.
Cher ami, vous nous avez dit l'autre jour que vous adoriez le théâtre.
J'adore le théâtre.
Dans le Hof d'Avignon, on y joue avec des ronds. Pour la première fois depuis sa création en 1966, le Hof du prestigieux festival de théâtre de la cité provençale va recevoir une subvention de l'État à hauteur de 40 000 euros. Un geste symbolique qui résonne comme une reconnaissance du Hof comme un lieu de création, selon son président. Cette année, la manifestation qui débutera le 5 juillet accueillera 1592 spectacles dans plus de 139 lieux, dont l'attendu Vivre sa vie de Jean-Luc Godard, mise en scène par Charles Berling.
La littérature, elle est partout et lyrique vraiment notre quotidien et qu'elle peut donner des formes agréables qui sont des formes de spectacle.
Oh, les beaux jours sont de retour. Pour sa 3e édition, le jeune festival littéraire reprend ses quartiers de printemps dès aujourd'hui à Marseille. Sous-titré Friction littéraire, la manifestation qui entend faire dialoguer les lettres avec des questionnements intimes, politiques, citoyens, invite près de 90 artistes, notamment Enki Bilal, Alice Zeniter, Véronique Ovalde, Nicolas Mathieu ou Arthur H., le rocker littéraire qui enchantera le Mucem de sa voix grave pour une lecture musicale dimanche prochain à la BN. Et Valérie Bonneton, invitée de Boomerang ce matin pour Venise n'est pas en Italie. Une comédie familiale et un road trip improbable dans lequel on vous retrouve fidèle à vous-même, c'est-à-dire tout à fait comique, il faut le dire. Quand est-ce que vous avez su que vous étiez drôle, honnêtement?
Au cours Florent. En fait, j'ai passé une scène qui devait être drôle, donc voilà. Mais là, vraiment, la salle était morte de rire.
Là, vous êtes dit quoi?
Et je me suis dit, ça, c'est très bizarre quand même à ce point-là. Mais vraiment, j'ai un souvenir presque qui faisait peur, en fait. Hein, quelque chose que... et puis, je me souviens qu'une fille m'avait dit après, oui, t'as fait énormément rire, mais enfin, tu te rends pas compte, tu le fais pas exprès. Je me dis, ah bah, quand même, si. Et souvent, on m'a dit ça. Souvent, on m'a dit dans les castings, oh, vous êtes drôle, mais vous ne le faites pas exprès. Alors que c'est mon travail, c'est beaucoup de travail.
C'est une construction, ouais.
Mais beaucoup de travail, voilà, pour arriver à...
Le rythme?
Être naturel et... le rythme, oui, c'est de la musique. On en parlait avec Benoît Poulvorde, c'est vrai que... C'est très agréable de jouer avec quelqu'un qui a le sens merveilleux du rythme, c'est-à-dire laisser le temps là. Ça s'explique pas, quoi. Il y a des gens qui l'ont, c'est... Benoît Poulvorde, il est impressionnant.
Vous vous faites rire, vous, Valérie Bonneton?
Ah, j'aime bien faire marrer toute seule. Je me parle toute seule et je me dis...
Qu'est-ce qui vous fait rire?
Je sais pas, de s'avouer la vérité, de dire la vérité, de dire des choses un peu complètement décalées, oser dire les choses. Ça me fait rire. Mais sans que ce soit méchant, jamais. Mais
alors, si c'est une construction,
se moquer de soi,
rire.
Se moquer de soi, même toute seule, voilà, se moquer de moi.
Il doit bien y avoir des modèles de comédiens qui vous font systématiquement rire.
Ah bah, Benoît Poulvorde, je trouve merveilleux.
Quelles scènes vous viennent à l'esprit chez lui, justement?
Non, chez lui, dans la vie, il est incroyable parce que justement, il déstabilise tout le monde, il dit le contraire de ce qu'on attend. On rentre dans un hôtel sublime, il faut, oh là, je me méfie de cet endroit-là parce qu'il est très, il vient d'être fier, il est tout, il casse tout, alors qu'on devrait dire qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est extraordinaire.
Mais là, la comédie, elle repose aussi sur un duo comique. Ça tient souvent à ça, non?
Oui.
Et parce que j'imagine que dans certains cas, il est facile de tirer la couverture à soi. Il faut aussi accepter l'autre, non?
Lui, il est, enfin, voilà, Benoît est pas du tout comme ça.
C'est vrai?
Pas du tout comme ça. Non, pas du tout. Non, mais les gens me disent toujours, oh là là, ça doit être difficile de travailler avec quelqu'un comme ça. Mais pas du tout. Enfin, c'est le soleil du matin au soir. Et quand on joue, on est absolument ensemble. Il est incroyablement à l'écoute. Et surtout, il est très déconcentré avant. Moi, j'adore ça parce que c'est une forme de concentration. Voilà, c'est-à-dire que, on est très très déconcentré jusqu'à action. Et là, tu peux avoir des larmes de rire, mais vraiment tellement on arrive. Et d'un seul coup, on est obligé du coup d'être là dans la seconde action. On peut pas faire autrement parce qu'on n'a pas eu le temps de se concentrer dans une fausse concentration avant. Donc, on est très très présent et on est obligé d'être ensemble.
Être là, c'est une bonne définition.
Mais
ça.
Oui, d'être là, puisqu'on on est vraiment là avant action. Pardon, je l'explique peut-être pas très bien. Mais
ah si, on comprend. Là, il y a un acteur avec qui vous avez commencé, un acteur qui ne vous a jamais vraiment quitté, avec qui on vous a beaucoup vu, notamment dans Superchondriaque, dans La Ch'tite Famille, dans Eiffalajökull, notamment, mais aussi à vos débuts à la télévision, dans Les Accros de la télé. Qu'est-ce qui vous lie à lui, à Danny Boone?
C'est un peu des familles, en fait, on se reconnaît. Danny vient du Nord, c'est une des premières personnes que j'ai rencontrées. Vraiment, Danny, très particulier, il est très doué. Et puis, il a vraiment cet amour des gens. Il a vraiment, comme Benoît, je le vois, cet amour profond des gens. C'est-à-dire qu'il ne peut pas s'empêcher de faire plaisir, il veut rendre les gens heureux, il veut faire plaisir.
À vous entendre, le métier repose aussi là-dessus.
Oui, moi aussi, je crois que j'ai ça. Moi, je suis jamais plus heureuse. Ce que je veux, c'est que les gens soient heureux. Voilà, c'est ce qui me fait plaisir. Et je dois dire que ce métier, en même temps, je suis partagée parce que j'ai envie de faire des choses de qualité. Tout le monde, voilà, c'est comme ça. Mais si on peut être utile, quand je vois les gens à quel point, dans la rue, ils me disent merci, vous savez, merci, j'étais malade à ce moment-là. Qu'est-ce que j'ai ri, qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Je me dis, on est utile. C'est comme j'écoutais dans votre émission Isabelle Marant qui dit on peut créer des vêtements sublimes, mais s'ils sont pas portables, alors à quoi ça sert? Moi, je me dis, je vois les choses aussi comme ça. Je me dis que, je sais pas, quand les gens sont fatigués, quand ils me disent ils travaillent beaucoup, ils travaillent dur, ils rentrent chez eux, et puis, eh ben, ça leur fait du bien, ils rient énormément, sans que ce soit, il faut que ce soit jamais ni vulgaire, ni que ce soit bien, voilà, un programme de qualité. Ben, je suis très heureuse, parce que je suis fière de ce que j'ai fait, et en même temps, ça fait plaisir aux gens.
Vous parlez du Nord, Valérie Bonneton. C'est une région centrale pour vous. Quelle région est-ce que c'est, justement? Quel paysage? Quelle couleur?
Ah, c'était dur. C'est vrai, je peux pas dire autrement. Voilà, j'aimerais pas y revivre. Mais j'ai des souvenirs absolument fabuleux des gens, parce qu'il n'y a rien d'autre que les gens. Là-bas, ils vivent tous sur le pas de leur porte. Chacun se dit bonjour, on est toujours accueillis. C'est-à-dire, viens boire un café, viens manger un bout de tarte, viens manger un bout de gâteau. Et là, le dimanche, on se réunit tous. C'est comme ça, c'est la vie là-bas.
Alors cette appartenance géographique, en fait, elle a fait de vous aussi qui vous êtes aujourd'hui. Elle a forgé quelque chose de votre identité.
Oui, c'est ma culture, c'est comme ça, c'est... Il faut donner. Les gens sont comme ça là-bas. On n'a rien d'autre à faire que de donner. Hein. Donner qui on est, partager. Voilà, c'est. Moi, j'aime ça.
Et quand vous êtes arrivé à Paris après votre bac, dans l'idée de faire le cours Florent, justement, comment est-ce que vous êtes senti?
En Normandie à Rouen, c'était un choc. Hein.
Ah, c'est vrai.
Ah, c'était vraiment un choc. Vraiment, j'en ai souffert parce que j'étais vraiment considérée comme une fille trop bizarre, très particulière. Parce que je disais bonjour à tout le monde déjà. J'étais très gentille. J'étais excessivement gentille. Peu trop, je me suis calmée, mais forcément, on se fait avoir.
Vous êtes devenue odieuse, Valérie.
Non, mais on se fait avoir, quoi. On se fait. Oui, forcément, on est. Voilà.
Isolé.
Mon père était comme ça. Ah non, isolé. Oh non, j'ai jamais été isolée. Non, j'ai une facilité. J'adore parler aux gens que je connais pas. J'adore rencontrer des gens. J'adore ça. Et ça, c'est le Nord. Ça, c'est comme ça. Les gens qu'on connaît pas, hop, on va vers eux. Mais Danny raconte la même chose, hein. Je sais plus ce qu'il racontait, mais il s'est fait engueuler quand il. Je sais plus. Je vais pas raconter à sa place. Mais bon, voilà. C'est naturel de dire quand quelqu'un demande son chemin, de dire je vais vous raccompagner. Bah c'est la rue, c'est là-bas. Vous allez là. Mais voilà. Et ici, c'est on demande la rue. C'est.
Et pourtant, vous vouliez le quitter. Ce Nord, de quoi vous rêviez?
Moi, je rêvais. C'était quand même assez dur. Je rêvais d'une vie artistique. Voilà, j'ai supplié mes parents pour faire du piano, de la danse. Ils me disaient, non, ça te passera. C'est une lubie. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours rêvé d'une vie artistique. Je trouvais que c'était une belle vie. Et après, voilà, j'ai jamais fait de musique classique. J'ai de musique ni de danse classique. Et je me suis dit, le seul instrument, c'est moi. Alors je vais tenter de faire du théâtre. Voilà. Je voulais une vie. Je trouvais que c'était certainement la plus belle des vies.
C'est quand même quelque chose d'avoir accompli ses rêves.
Ah oui, c'est quelque chose. Je suis très heureuse, très heureuse.
On continue à rêver ensemble, alors Valérie,
exactement.
Ce matin.
Tout est
ensemble.
Possible, toujours.
Ah bah, notamment dans cette toujours. Émission. Parce qu'il y a du rêve, justement, qui nous arrive. Les Everly Brothers, qui chantaient le rêve. All I Have to Do is Dream, en 1970. Vous êtes sur France Inter, vous écoutez Boumang. Il suffit, figurez-vous, d'un accord de guitare pour que vous mettiez à rêver.
Dream. Charms whenever I want.
Sur France Inter, Augustin Trapenard.
Oh bah c'est la bonne copine, hein. Vous savez, c'est la cousine tête bêche. Celle qui est toujours partante pour un pique-nique, une sortie canapé, une partie de rami. Avec sa mine enthousiaste, son sourire parfois un peu prudent, son regard pétillant, son brun chevelu, cheveux éclatants. Elle vous donne envie que ce soit tous les jours Noël, hein, tous les jours les noces d'argent de mamie Joël, ou celui de la communion solennelle du cousin Gabriel avec son petit blouson beige en cuir. Ce matin, Valérie Bonneton, invitée de Boomerang pour Venise, n'est pas en Italie, en salle demain. L'histoire d'une famille assez peu conventionnelle, on le disait, qui se lance en fait dans un voyage à Venise pour que celui qui joue votre fils puisse se rendre à un concert auquel il rêve d'assister. Quand vous dites oui à un projet comme celui-ci, à quoi est-ce que vous dites oui en fait? À un casting, à une vision, à une rencontre avec un réalisateur?
Je dis oui à l'histoire.
À l'histoire.
Je dis oui à l'histoire, voilà. Et puis là, au partenaire, parce que Benoît Poelvoorde, bah, on avait déjà tourné ensemble, mais on savait que ce serait voilà évident de retourner ensemble. Donc en effet, ça a été absolument de moi merveilleux.
Quels sont les scénarios?
Au rôle, évidemment. Moi, je dis oui au rôle.
Les scénarios auxquels vous dites non, vous devez recevoir un paquet, Valérie Bonneton.
Mais là, ces derniers temps, je n'ai pas envie de faire de grosses comédies où on est très bien payé. Voilà, j'ai pas envie. Ça me fait un peu peur, quoi. Là, c'est
parce que
quand on
là...
fait rire, bah il y a pas beaucoup de choix. C'est comédie ou rien. Grosse comédie, voilà. C'est et donc j'ai pas eu envie de faire ça au départ quand j'ai décidé de devenir comédienne. J'ai fait le conservatoire et j'avais pas envie d'être. Enfin, je savais pas qui j'allais devenir, mais voilà, j'avais envie d'être une grande artiste, j'ai envie d'apprendre mon métier, de travailler, faire du théâtre.
Bah, vous l'êtes,
voilà.
Quand même.
Oui, mais je me dis, je suis rentrée avec Claudel, avec Tchekhov, j'ai travaillé, voilà, tous ces auteurs et je me suis régalée. Et après, je suis tellement heureuse de faire rire. Parce que je peux pas m'empêcher, c'est plus fort que moi.
Mais parfois, il vous arrive de vous dire, je suis un peu figé, je suis un peu fixé dans un rôle.
Non, mais j'ai aussi envie de faire autre chose. Bien sûr, je suis actrice. C'est comme c'est pas ça que j'ai fait pendant mon 9 ans. J'étais extrêmement heureuse parce que alors là, j'ai l'impression d'avoir tout joué pendant 9 ans. Ouais. J'ai l'impression que ça a été la meilleure des écoles pour moi, avec des partenaires fabuleux. Franchement, j'étais très heureuse. Mais voilà, je suis actrice, ça veut dire pouvoir tout faire. Enfin voilà, j'ai envie de jouer autre chose.
Mais qu'est-ce que c'est un bon scénario pour vous, Valérie Bonneton?
Bah c'est une bonne histoire, c'est une bonne écriture, c'est tout.
Quand, et une pièce
quand c'est
de
bien
théâtre,
écrit,
c'est pareil.
Quand j'ai reçu la série, je me suis dit la télé au départ, je me suis dit non, je veux pas faire de la télé, et j'ai mis du temps avant de le lire, puis j'ai dit oh là là, mais qu'est-ce que c'est bien écrit. J'ai trouvé que c'était vraiment bien écrit, c'est tout, l'écriture, quand il y a l'essentiel, quand il y a l'essence de l'histoire, et c'est pas toujours évident.
Alors une bonne pièce de théâtre, c'est pareil,
c'est
quand c'est
chose.
Bien écrit, c'est une bonne histoire,
bien
tout simplement.
Bien sûr.
Je vous pose la question parce que mine de rien,
ni gras, ni vulgaire, ni lourd, ni quand il y a voilà, quand on est intrigué, qu'on se dit mon Dieu, il se passe quelque chose, c'est original, c'est pas déjà vu. on a envie d'y aller.
Je parle de théâtre parce
personnage est fort, évidemment. On a envie d'un beau rôle, forcément. Hein. Parce que c'est ça, c'est un beau rôle, c'est tout.
C'est par le théâtre que tout a commencé pour vous, en fait.
Ouais, c'est par le théâtre que tout a commencé, ouais. Ouais.
Vous diriez que vous êtes perdu au cinéma? Ou alors c'était une envie aussi?
Non, mais il ne faut pas se perdre. Hein. C'est vrai qu'il faut rester en phase avec soi-même. Hein. Mmh. Il faut être... voilà, si... Sinon, après, je suis plus heureuse. Donc, il faut faire des choix. Mais c'est bien, ça va. Je suis contente parce que je suis en train de les faire. C'est super.
Elle est toujours là, quand même, la jeune Valérie Bonneton.
Oh, elle est que là.
Du Tchekhov.
Elle est que là. Elle est que là. Oui, 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 oui.
Ça vous manque, hein.
Le...
De jouer Tchekhov, par exemple.
Ah, j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Ça me plairait.
C'est votre auteur à vous,
pas
ça.
Pas n'importe qui. C'est un de mes auteurs. En tout cas, quand j'étais au conservatoire, ouais, ouais, j'ai découvert les auteurs. J'ai découvert, notre ami Shakespeare, Molière. Et Tchekhov, que j'ai découvert, je suis sortie avec Nina dans la mouette, que j'ai adoré. J'ai adoré, voilà, travailler ce rôle. J'ai adoré Claudel aussi. Mais Tchekhov, c'est un auteur qui me touche parce qu'il parle des gens modestes. Surtout ce sentiment qu'on retrouve dans quasiment toutes ses pièces, c'est-à-dire un jour, on aura une vie meilleure. Un jour, ce sera mieux. Un jour, ce sera possible. Et puis, concrètement, il se passe rien. On est là, on est figé. On n'avance pas. On voudrait avancer, mais on n'avance pas. C'est assez désespéré. Et j'adore ça parce qu'on s'y retrouve. C'est tellement la vérité, c'est tellement très juste, Tchekhov. C'est tellement très vrai.
C'est un texte de Tchekhov, justement, que vous avez choisi de nous lire ce matin.
C'est vrai.
Plus précisément, une lettre de Tchekhov extraite d'une anthologie qui s'appelle « Vivre de mes rêves ». Pourquoi cette lettre, Valérie Bonneton?
Attendez, il faut que je sorte mon livre, non?
Ouais, peut-être. Ça serait bien. Ah bah, il est dans votre sac.
Il est là. Alors, c'était quoi? C'était la page. Pourquoi? Parce que j'adore comme il parle des acteurs. Je trouve qu'il dit la vérité, il se remoque, il a pas peur des mots. Et j'adore, parce que quand on connaît les pièces de Tchekhov, et après quand il parle de son travail, de sa pièce, et en fait c'est assez banal finalement. Ouais. Il en parle comme nous, on parle des autres, avec un peu de jalousie, ou un peu de médiocrité. Il y a un peu de médiocrité dans ses lettres aussi, et il l'avoue, il avoue comme il est, quoi. Il peut parler autant de choses sublimes que de ses hémorroïdes, j'adore. J'adore.
Soudain, vous me donnez envie de l'entendre.
Mais je vous assure, il dit des choses sublimes dans ses lettres, puis après il dit, au fait, j'ai toujours des hémorroïdes, c'est complètement fou. J'adore ce contraste, cette folie, quoi. Et comme ses lettres d'amour, il tombe fou amoureux d'une fille qui s'appelle Olga, une actrice. Mais alors, il appelle par tous les noms, mais c'est tellement drôle, tellement poétique. Je trouve ça génial, ça donne envie de relire toutes ses pièces. Et là, bah, cette lettre-là, mais ça pourrait être toutes les lettres, hein. Franchement, elles sont toutes géniales.
On vous écoute.
Alors, attendez, c'est celle-là ? Oui, c'est ça. Donc, Alexis Sergeevitch Souvorine. Je vous envoie un bout de papier que je vous prie de contresigner et de me renvoyer. Vous êtes à compter du 7 janvier, considéré comme membre de la société, il resterait jusqu'à 50 ans exactement après votre mort. Et ce, pour la bagatelle de 15 roubles seulement. Je vous envoyais aujourd'hui deux versions de mon Ivanov, et le rôle d'Ivanov est tenu par un acteur souple et énergique. Je rajoutais et modifiais bien des choses. Ma plume s'est emballée, mais hélas, Ivanov est joué par Davidov, ce qui signifie qu'il faut faire le plus court et le plus gris possible, en n'oubliant pas que toutes les finesses et toutes les nuances seront fondues en une sphère grise et parfaitement ennuyeuse. Un Davidov capable d'être tantôt dans la douceur, tantôt dans la fureur, quand on lui confie des rôles sérieux, il a dans la gorge un petit moulin aigrelet et monotone qui tient le rôle à sa place. Je regrette que la pauvre Savina ait à jouer cette falote Sacha. Pour Savina, j'y aurais mis tout mon cœur, mais si Ivanov doit manger son texte, j'aurais beau refaire Sacha dans tous les sens, je n'arriverai à rien. Seulement j'ai honte que dans ma pièce, Savina ait à tenir le diable. C'est quel rôle? Si j'avais su à quel temps elle aurait celui de Sacha et Davidov celui d'Ivanov, j'aurais intitulé ma pièce Sacha. Elle aurait tout entière bâti autour de ce rôle auquel j'aurais simplement annexé Ivanov. Mais qui pourrait savoir? Ivanov a deux longs monologues, fatals pour la pièce, l'un à l'acte 3, l'autre à la fin de l'acte 4, le premier doit être chanté, le second lu avec fureur. Davidov est incapable de l'un comme de l'autre. Il va lire les deux monologues en homme d'esprit, c'est-à-dire avec une mollesse infinie. Comment appelle-t-on Fédorov? J'aurais avec grand plaisir exposé à la société des gens de lettres d'où m'est venue l'idée d'écrire Ivanov. Je me serais publiquement repenti. Je caressais le rêve insolent de faire la somme de tout ce qui s'était écrit jusqu'ici sur les géniards et les languissants et, avec mon Ivanov, d'imposer une limite à ses écrits. Il m'avait semblé que tous ces gens de lettres et dramaturges russes, s'ils éprouvaient la nécessité de dépeindre l'homme abattu, le faisaient tous instinctivement, sans avoir ni modèle précis, ni point de vue sur cette affaire. Je suis, dans mon projet, tombé à peu près juste, mais sa réalisation ne vaut pas tripette. Il aurait fallu attendre. Je suis content de ne pas avoir écouté Grigorovitch il y a 2 ou 3 ans et de ne pas avoir écrit un roman. J'imagine la quantité de bonnes marchandises gâchées si je l'avais écouté. Il dit « Le talent et la fraîcheur vaincront tout. Le talent et la fraîcheur peuvent beaucoup gâcher. » serait plus juste. Outre le talent et l'abondance, il faut autre chose encore, de non moins important. Il faut de la maturité. C'est la première chose. Deuxièmement, le sentiment de la liberté personnelle est indispensable. Or, ce sentiment ne s'est éveillé en moi que depuis peu. Apparemment, je ne l'avais pas. En tenait lieu avec succès ma légèreté, ma négligence et le peu d'estime que j'avais pour mon travail. Je lis jusqu'au bout ou pas?
Non, c'est bien là déjà.
Ah, c'est bien.
Peut-être
déjà, c'est
un
pas
autre
mal,
paragraphe,
hein.
Un dernier.
C'est pas
juste
mal.
Pour nous faire plaisir.
C'est pas mal, c'est mal. Non, j'ai envie de lire n'importe quoi au hasard.
Ah bah non, on peut pas tout lire. On peut
c'est
pas
vrai,
tout
non,
lire
non,
Tchekhov,
non, Valérie. D'accord. C'est bon, mais j'ai terminé.
Bah c'est pas grave.
Attends, j'ai terminé.
Mais moi je suis heureux et vous m'avez donné envie de le lire. Alors
non, c'est
merci.
C'est ça, mais par exemple, il parle de la maturité et c'est vrai. Tchekhov, c'est fou à quel point il faut de la maturité, quoi. Pour,
vous en avez, vous, de la maturité?
Bah maintenant je commence à en avoir. C'est vrai que si je rejouais la mouette, pardon, je pense que ce serait autre chose.
On vous le souhaite. Merci infiniment,
ah,
Valérie.
Merci, bonne merci.
D'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que Venise n'est pas en Italie, d'Yvan Calberac avec Benoît Poulvorde, Elitona et Luna Lou notamment sort demain. Tout de suite les médias, Sonia De Villers, juste après ça. Le Noir, fille de personne sur France Inter et tout de suite c'est l'heure des médias avec Sonia De Villers, l'instant M.
Je suis là, Augustin.
Vous m'entendez, Sonia?
Ouais, salut, à demain.
À demain.